Bonjour, rebonjour à toutes et tous. Donc je m'appelle Nicolas Tixier, j'ai le plaisir d'être le directeur de l'équipe de recherche qui s'appelle le Cresson, qui est avec une autre équipe qui est à Nantes, qui s'appelle le Créneau. En fait, on forme un laboratoire de recherche du CNRS qui s'appelle AAU, Ambiance, Architecture, Urbanité. Et donc le Cresson est né il y a maintenant 43-44 ans, ici à l'École d'architecture de Grenoble, et a développé tout un ensemble de travaux sur le sonore. Il y a une dizaine d'années, a été lancée l'idée d'une Winter School, c'est-à-dire que chaque hiver, pendant ce qui s'appelle la Semaine du son, qui est une semaine à la fois nationale et internationale, qui est en ce moment, où de partout en France se passent des choses autour des questions du son, et bien que chaque semaine du son, nous organisions à Grenoble, à l'école d'architecture, une Winter School. Cette Winter School est gratuite, elle est ouverte à toutes et tous, et elle fédère des gens qui viennent d'horizons différents, mais qui s'intéressent au son. Du coup, parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont étudiants, d'autres qui ne le sont pas, il y a des gens qui maîtrisent parfaitement le son, mais d'autres qui aiment au contraire lire sur le sonore. Il y en a qui sont des musiciens, et puis d'autres qui sont des acousticiens. Il y en a qui font de la radio, et puis il y en a qui sont des preneurs de son. Et donc, on a tous comme ça des centres d'intérêt autour du sonore. Cette Winter School, on a pendant plusieurs années fait des Winter School internationales, tout en anglais, et avec les séminaires en ligne, ce qui nous a été rendu obligé par la Covid. Mais on a tenu pour cette Winter School-là, non pas à revenir aux Français obligatoirement, mais à revenir entièrement en présentiel pour retrouver le plaisir d'être tous ensemble, en fait. Donc la Winter School sera principalement en français, il y aura quelques moments en anglais, mais sera principalement en français, et pour ceux qui ne comprennent pas le français, il y a l'idée qu'il y a des souffleurs. Giuseppe Gavazza, qui est au fond, est venu avec ses étudiants du conservatoire de Cuneo, bonjour, et ils ne parlent pas tous français, donc voilà, de temps en temps c'est intéressant de souffler des petits résumés de ce qui se passe à celles et ceux qui ne parlent pas français. Alors, si j'ouvre la Winter School, ce n'est pas moi qui l'ai organisée, mais c'est toute une équipe au Cresson, en particulier sous la direction de Cédric Pichat. Alors, c'est bien que vous allez vous lever la main pour qu'on vous... Voilà, et donc Cédric est vraiment celui qui a vraiment organisé la Winter School, tout son travail de préparation, mais il ne l'a pas fait seul, il l'a fait avec Jules Macoison, avec Françoise Acquier. Françoise, tu es où ? Là, voilà. Il l'a fait avec Léa, qui a un stage chez nous, qui est en licence 3 et qui nous aide. Aussi avec David Argou, qui n'est pas là, mais que vous verrez de temps en temps. Et puis Sébastien Depertin, qui est là. Pendant toute la semaine, vous allez voir d'autres personnes, en particulier Théo Marchal, qui est architecte, acousticien, enseignant-chercheur du Cresson. Vous allez voir Marc Higgin, qui est anthropologue, qui est chercheur au Cresson. Et puis Giuseppe Gavazza. Giuseppe, peut-être tu peux te... Voilà, qui est chercheur au Cresson, professeur au conservatoire de Cuneo et qui est là aussi pour l'encadrement et une partie de la Winter School a été conçue aussi avec lui. Alors, le thème de la Winter School, c'est un thème à la fois universel mais qu'on n'avait jamais abordé dans les 8 ou 9 précédentes Winter School. C'est la question de la densité. Densité, intensité, mixité. Comment sonne l'habité ? C'est-à-dire, quel est le rapport entre la sonorité et la densité ? Alors, derrière ces mots, en fait, on peut entendre beaucoup, beaucoup de choses. Je ne vous ai pas volontairement défini ce qu'on entendra par sonorité et par densité. D'abord parce que densité, pour tout quiconque a travaillé sur ce terme-là, réfère à une variété d'interprétations. Il y a la densité métrique, combien d'habitants habitent au kilomètre carré, ou combien il y a d'habitants dans 100 mètres carrés d'appartement. Ça, c'est une densité mesurée. C'est le nombre de quelque chose à l'intérieur d'une surface donnée. On comprend bien que là, selon là où on habite, les différents quartiers ont des densités différentes. Mais la densité se mesure par rapport au périmètre, par rapport à laquelle on la mesure. Donc elle est aussi toujours relative. Elle est toujours relative à un périmètre. Enfin, si on couple densité et sonorité, on va dire, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de quelque chose que ça fait forcément plus de son. Et donc arrivent deux autres termes qui sont intensité et mixité. La densité, c'est une valeur quantitative, mais l'intensité, c'est une valeur qui est à la fois quantitative mais aussi qualitative. C'est-à-dire, par exemple, la nuit, c'est très calme, et le jour, c'est beaucoup plus d'activité. L'intensité, c'est le fait d'introduire la temporalité dans la relation entre sonorité et densité. Et puis l'autre terme, c'est mixité. Avoir tout un ensemble de choses identiques, c'est pas pareil que d'avoir tout un ensemble de choses différentes. Ça paraît évident. Et souvent, on a tendance à mélanger intensité, mixité et densité, et on est obligé de regarder de plus près la richesse sémantique. Qu'est-ce qu'on appellera densité à tel endroit ? Quelles sont les intensités ? Et quelles sont les mixités ? Et est-ce que le sonore nous permet d'aborder cette question dans sa complexité ? Ça, c'est la grande hypothèse que l'on fait au Cresson. C'est qu'aborder les territoires de l'habité par le son nous permet d'intégrer naturellement la part architecturale, acoustique, physique, la part sociale, des modes d'habiter, des pratiques, des usages, et puis la part sensible, comment je perçois, comment j'entends, mais aussi comment je suis moi-même producteur de son. Et donc la question de l'écoute est en général une écoute active. Alors, pour cette Winter School, en fait, nous allons poser frontalement cette question. Pour la poser, il y a deux types de travaux. Les premiers types de travaux ont démarré il y a 2 mois par un groupe d'étudiants qui sont en M2, en Master 2, en urbanisme, dans une filière design urbain, qui ont 6 terrains sur lesquels ils posent cette question des relations entre sonorité et densité. Ces étudiants-là ont terminé leur étude et on en produit des immenses coupes. C'est des traversées du territoire sur des papiers qui font entre 3 et 5, 6 mètres de long. Et ils doivent maintenant en produire la bande-son, le soundtrack de leur étude. Donc, il se passe dans ce moment final de leur travail. Ils seront aidés par une partie d'étudiants qui sont en Master 1 des années urbains, qui vont les aider à finaliser et à projeter un peu plus loin là où ils en sont. Et puis, il y a un deuxième groupe qui est composé de personnes qui viennent d'horizons différents, pour lesquelles on va vous proposer 4 ou 5 terrains, je ne me rappelle plus, c'est 4 ou 5, dans Grenoble, sur lesquels vous allez explorer cette question de la densité en lien aux sonorités. Et là, on souhaite que vous fassiez des groupes plutôt mixtes, enfin vous ferez des groupes libres. On n'est pas obligé d'étudier les 4 terrains. Il faut travailler à avoir que des groupes entièrement sur 2 terrains, par exemple, ou sur 3 terrains, où les 4 terrains peuvent être étudiés. Mais c'est l'idée que vous allez aller sur le terrain et essayer de trouver une façon de rendre compte, d'exprimer et peut-être même de mettre en projet ce rapport entre densité et sonorité. Ces expériences finales seront montrées ou écoutées par tout le monde vendredi après-midi. Alors, avant de vous faire écouter un peu de son, je voudrais aussi vous dire qu'une partie des partenaires de ce projet viennent de l'IDEAL. L'IDEAL, c'est un groupe de recherche sur le logement parisien. Ils sont situés à Paris. Et donc, ils sont très intéressés à qu'est-ce que ça signifie que d'aborder l'habiter par le son et pas uniquement par la nuisance sonore. Et puis, on est aidé par l'agence d'urbanisme de la région grenobloise qui ont choisi les terrains pour nous en disant ces terrains-là nous intéressent. Il nous intéresse que vous travaillez dessus. Et donc, les acteurs de ces deux groupes seront présents vendredi pour découvrir, écouter les travaux que vous aurez produits vendredi, en fin de matinée et toute l'après-midi. Alors, pour démarrer, on va écouter quelques sons. On a Grégoire Chelkoff qui va donner la grande conférence de la fin d'après-midi avec toute une équipe. Ont développé un logiciel qui s'appelle Cartophonie. Cartophonie vient rendre disponible sur Internet plus de 40 ans de recherche sur le sonore du Cresson et puis d'amis proches du Cresson qui nous ont confié leur son. Donc aujourd'hui, je ne sais plus, je crois qu'il y a 1600, 1800 sons. Alors à la fois c'est énorme, en même temps c'est pas beaucoup par rapport à d'autres bases de données, mais là où c'est énorme, c'est que chaque son est réellement référencé, documenté et précisé dans quel cadre de recherche il a été fait, quels sont les micros utilisés, quelles sont les questions qui étaient posées, est-ce qu'il y a des effets sonores, etc. C'est-à-dire qu'on peut interroger le son par tout un ensemble de descripteurs. Alors pour introduire peut-être à densité sonorité, je vous propose deux sons. Le premier, c'est un son que Jean-François Augoyard, fondateur du Cresson, avait l'habitude de faire écouter. On est dans le centre ancien de Grenoble, dans une cour intérieure. On est en 1982, au mois de juin, et l'extrait s'appelle « L'heure de midi ». La prise de son, à cette époque-là, les gens allaient sur le terrain ensemble, a été faite par Olivier Balaï, Grégoire Chelkoff et Olivier Bell. Et je vous propose la première écoute de 3 minutes.
Trois fragments de la vie sonore d'une cour d'immeuble ancien, cour de Chaune. Premier fragment, CH1, au mois de juin, juste avant midi. Thank you.
Voilà, donc c'est un son qui a 40 ans, plus de 40 ans. Il nous montre très bien que dans un centre-ville assez dense, même on va dire très dense, il peut y avoir des havres de calme, cette cour intérieure, mais où, en fait, et c'est classique du sonore, se mélangent les sons des intérieurs, on entend la télévision, on entend quelques voix, et puis les sons de l'extérieur, on entend des pigeons, on entend des voitures au loin. Le centre-ville n'était pas piéton, enfin, n'était pas que piéton à l'époque. On entend aussi un oiseau qui a été mis dans une cage sur le rebord d'une fenêtre, ou du moins sur une marche ou un escalier. Et puis on entend la réverbération, en fait. On entend très bien la réverbération. Et donc, densité et sonorité, ça ne veut pas forcément dire bruit, ça ne veut pas forcément dire niveau sonore très haut. Et là, il y a une qualité sémantique de tout ce qu'on écoute. C'est-à-dire qu'on passe d'un son à un autre, avec plutôt une écoute plaisir. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter ce fragment sonore. Alors, on va rester dans la même période. Et nous allons aller, cette fois-ci, dans un autre secteur dans lequel on est. Oups, il faut donc que je quitte le diaporama. Voilà. On va dans un autre secteur dans lequel on est, qui est la Villeneuve de Grenoble. Donc là, on est situé à la partie sud de la Villeneuve de Grenoble. La Villeneuve de Grenoble a été un des grands terrains d'exploration du sonore pour l'équipe. Et il y a un son qu'on aime beaucoup parce qu'il est... Il nous montre une Villeneuve telle qu'on ne peut pas le voir souvent. C'est le soir de l'élection de François Mitterrand, le 10 mai 81. Je vous laisse écouter.
Quatrième fragment, Galerie de l'Arlequin. Le soir du 10 mai 81, entendu depuis le 8e niveau du 150.
Peut-être que vos sons que vous ferez cette semaine, ou que vous avez déjà fait, un jour deviendront une archive, en fait. Et donc ça, c'est peut-être une dimension qu'on oublie quand on étudie le son. C'est qu'on peut vraiment produire des archives. Et ces archives, elles nous renseignent quand même beaucoup sur le monde d'hier, ses sonorités, son habitabilité, mais aussi sur ce à quoi on prêtait l'oreille. Voilà. Alors à la Villeneuve, qui est ce grand quartier... je crois que chaque jour de l'an, il y a un concert de casseroles aux fenêtres. C'est-à-dire que la sonorité dans les endroits... Alors d'ailleurs, la Villeneuve n'est pas très dense, parce qu'elle est en Landpark. Donc selon le périmètre que l'on prend, en fait, la Villeneuve ne représente pas forcément une densité plus grande que le centre-ville. Évidemment, si on prend le périmètre uniquement sur l'immeuble, c'est beaucoup plus grand. Donc il y a tous ces paradoxes. Quand on aborde un lieu par le son, eh bien, ça change complètement la façon de le regarder. Et donc, vous irez, si vous le souhaitez, dans Cartophonie, écouter d'autres sons. Mais vous pouvez aussi, demain, déposer vos propres sons dans Cartophonie, et pourquoi pas ceux que vous allez faire. Mais la Villeneuve, ce n'est pas que des moments de sonorité aiguë. Et Jules, qui est là, il est où Jules? Il est là-bas derrière. Jules a fait un son qui est assez beau il y a 4-5 ans. Hein, 4-5 ans. Vous allez vite comprendre qu'un endroit qui a plus de 10 000 habitants sonne des fois de façon merveilleusement calme. Enfin, pour terminer ce petit tour sonore, voici une expérience à laquelle j'ai eu le plaisir de contribuer. Nous étions à côté de Sao Paulo, à Mauá, dans un quartier que vous voyez d'immeubles très denses, nouveau quartier qui avait été créé au début des années 2000, dont ils se sont rendus compte en 2010, alors que les premiers habitants étaient déjà là. Les constructions continuaient, un quartier de 10 000 habitants qui se créait de toutes pièces, qu'il avait été créé sur une décharge médicale et que les gens commençaient à tomber malades. Et donc, évidemment, les constructions se sont arrêtées. Une partie des gens ont pu partir, mais une partie des gens sont captifs parce qu'ils ont payé des crédits pour habiter là et ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Donc, ils sont mis à habiter uniquement les étages hauts pour s'éloigner de la terre. Et là, dans le groupe qui est là, vous avez des chercheurs de Sao Paulo, vous avez des habitants et puis notre petite équipe française. Et face à ce territoire extrêmement injuste, qui est le lieu du silence, puisque personne ne veut jouer au niveau du sol, eh bien, Patrick Romieux, qui est anthropologue au Cresson, a proposé que nous poussions en grand cri. Donc le sonore, ce n'est pas que de l'écoute passive, c'est aussi la possibilité d'activer le son, de dire des choses, de crier, de murmurer, de chanter, de jouer, de faire sonner de façon très heureuse ou au contraire de façon très engagée politiquement. Voici. Alors, pardon. Il y a 40 ans, voici une première affiche du Cresson. Julien m'a dit « Arrête de rappeler l'histoire du Cresson », mais c'est important de comprendre que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu 40 ans de travaux. Et en particulier avec ces deux personnages que vous voyez, celui qui a un pull avec un col blanc là-bas, c'est Jean-Jacques Delettré, acousticien, qui a rencontré l'autre qui baisse la tête, qui est Jean-François Goyard, philosophe. Et les deux ensemble, un acousticien et un philosophe, ont créé le Cresson et en particulier se sont mis ensemble pour étudier les phénomènes sonores. Vous avez Olivier Balahi, dont on a écouté les sons tout à l'heure, qui était tout jeune, en 79, il reste jeune, mais voilà. Et puis, alors, pour vous le dire, c'est une photomontage quasiment, parce qu'ils sont allés chercher la secrétaire de l'école à l'époque, qui faisait semblant de manipuler la table de mixage, mais c'est plutôt heureux. Alors, le sonore, d'un point de vue classique, nous on aime bien situer l'approche du cresson par rapport à deux autres approches. Une première approche, qui est le traité des objets musicaux de Pierre Schaeffer, la musique concrète, une espèce de volonté phénoménologique d'être au plus près de la matière sonore, de l'objet sonore, et à partir de là, de la recomposer, et d'en faire même une nouvelle grammaire, un nouveau solfège. L'ambition, c'était que, en travaillant sur l'objet sonore, eh bien, on pouvait s'intéresser à tous les sons du monde et on pouvait composer avec autre chose que le solfège classique. Mais travailler avec les objets sonores, c'est tout petit, c'est quand même un vrai travail quand on travaille sur l'urbain, c'est découper les choses en extrêmement petites entités. Mais c'est formidable et Pierre Schaeffer, quand on écoute ses études au chemin de fer, on se rend compte à quel point c'est producteur. La deuxième grande approche qui est arrivée dans les années 70, c'est celle de Murray Schaeffer. Murray Schaeffer, ce Canadien, élève de McLuhan, pour qui tout communique, McLuhan, hein, vous savez, c'est massage, message égale massage, c'est-à-dire en fait, toutes les choses du monde communiquent. Et Murray Schaeffer s'est engouffré là-dedans en disant « Mais les sons communiquent entre eux, quoi. » Et d'ailleurs, quand ils communiquent bien entre eux, ou quand ils s'écoutent bien entre eux, quand ils s'entendent au sens à la fois de l'ouïe et de la cordialité, eh bien, ça produirait des paysages écologiques d'un point de vue sonore. Et donc, avec toute son équipe, ils sont partis dans le monde entier à la recherche, quelque part, de ces paysages écologiques sonores. Et la notion de soundscape de Murray Schaeffer a fait école et aujourd'hui, ben, on en est tous un peu issus quelque part. Si on est capable de parler et de travailler sur des paysages sonores, c'est grâce à cette approche. Mais, parce qu'il faut être un peu critique, au cresson, on aime bien dire que le paysage sonore, c'est à la fois nécessaire, utile, incroyable, mais souvent, ça a une approche un peu passive. C'est-à-dire, je suis là à écouter, à contempler un environnement sonore que je vais trouver esthétique, en harmonie, en hi-fi, comme il dit, et pas en lo-fi, dans laquelle je vais trouver que les choses s'entendent bien dans une écologie réciproque. Mais dans la vie quotidienne, on n'est pas toujours en train d'écouter un paysage sonore. En fait, on bouge, on fait des activités, etc. On est soi-même producteur de son. Et donc, entre l'objet sonore, qui est un découpage tout petit pour parler du son, ou le paysage sonore qui, quelque part, nous met en situation d'écoute contemplative, il manquait un outil pour décrire les situations sonores ordinaires qui ne relèvent pas forcément de l'écoute d'un disque qu'on va se mettre le soir et qui ne relèvent pas toujours non plus d'une musicologie de l'objet sonore. Eh bien, cette notion a été travaillée par l'équipe du Cresson il y a 30 ans maintenant. Ça s'appelle l'effet sonore. Okay. Objet sonore, paysage sonore, effet sonore. Et l'effet sonore, ça vient qualifier ce qui se joue à un moment donné d'un point de vue sonore par rapport à soi, au lieu et au son. Voilà, c'est des choses très simples. J'entends la réverbération du lieu, alors je vais me mettre à parler différemment. Ou je vais me mettre à marcher autrement. Je veux appeler quelqu'un, il y a beaucoup de bruit, ben je vais siffler parce que le sifflet, mon sifflement, ne sera pas dans les mêmes catégories de sons que ce qui m'entoure. Donc je vais chercher un effet de créneau, par exemple, ou etc., etc. C'est-à-dire, passer par l'effet est une façon d'essayer de décrire ce qui se joue entre les formes urbaines et l'acoustique, les formes sociales dont sa propre activité, et puis une écoute sensible. Alors, il y a tout un répertoire des effets sonores, il y en a parmi vous qui connaissent, d'autres qui ne connaissent pas, et vous aurez un moment de séminaire là-dessus. Et puis, ce travail sur le son a amené l'équipe très vite à travailler sur la notion d'ambiance. En disant, mais évidemment, il n'y a pas que le son. Il y a la lumière, la thermique, l'aérolique, les couleurs, le visuel. Est-ce que nous pourrions généraliser les travaux sur le son à d'autres modalités sensorielles? Et au-delà de chaque modalité sensorielle qu'on étudierait séparément, est-ce que l'on peut travailler l'ambiance ici? Si je vous disais, ben, c'est quoi l'ambiance en ce moment du lieu dans lequel on est? Ce n'est pas parce que vous allez faire la somme d'une étude d'acoustique, d'une étude d'éclairage, d'une étude thermique, vous aurez le résultat. Vous aurez des éléments qui permettront de comprendre des choses, mais vous ne pourrez pas qualifier l'ambiance au singulier du lieu. Eh bien, c'est tout cet enjeu-là sur lequel le Cresson s'est mis à travailler après. Et parmi les travaux les plus récents et les plus stimulants là-dessus, je trouve que l'apport de Jean-Paul Thibault au Cresson a été important puisque, justement, il a vraiment cherché non pas à regarder l'interdisciplinarité des ambiances, mais plutôt comment l'ambiance existe au singulier sans qu'on les sépare par modalité sensorielle. Et son petit schéma est très bien parce qu'il nous permet de comprendre que l'ambiance, elle enveloppe. Ça, c'est plutôt l'enjeu de spatialité. Ou alors, elle intègre. C'est l'enjeu d'intersensorialité. Là, je ne sépare pas dans ma perception la lumière de la thermique, de l'acoustique. Mais l'ambiance, elle a aussi une tonalité affective. Elle s'éprouve. Je suis très heureux d'être là avec vous. Ça compte, et ça compte peut-être dans la salle, j'espère. Il y a une dynamique temporelle. L'ambiance, elle s'installe. Elle n'est pas donnée. Il a bien fallu, à un moment donné, qu'il se passe quelque chose. Vous vous êtes assis, j'ai parlé au micro, vous vous êtes tu. Là, c'est le grand silence. L'ambiance s'installe, en fait. Et puis après, elle va peut-être se désinstaller. Et une autre ambiance arrivera, mais il restera peut-être des éléments de la première. L'ambiance, elle se partage. Il est évident que je ne vis pas ce moment aujourd'hui, là, de la même façon que vous, ou que chacun d'entre vous. Et pourtant, on a quand même bien l'impression qu'on vit dans un monde commun, que ce que l'on vit là, aujourd'hui, on le partage. Et donc, l'ambiance, en cela, elle nous relie. C'est ce qui rend possible, peut-être, qu'on soit ensemble dans un lieu donné. Enfin, l'ambiance, elle a des enjeux de corporéité, c'est les sollicitations motrices, l'ambiance, elle stimule. La façon dont l'ambiance, là, va faire que vous allez faire attention de ne pas faire de bruit, ou au contraire, ou parce qu'il fait froid, vous allez remettre votre veste, ou etc. Notre corps est en jeu. Et donc, ce qui est intéressant avec l'ambiance vue comme ça, c'est que ça permet de se dire, mais selon les lieux dans lesquels on est, quelles sont les qualités, les dimensions qui sont les plus manifestes d'une ambiance? Et donc, pour aborder le sonore, c'est aussi très utile de se dire, mais quand est-ce que telle qualité sonore d'un lieu ou tel phénomène sonore joue plutôt sur le corps, sur la spatialité, sur l'intersensorialité, sur l'affection, sur les dynamiques temporelles ou sur le partage de l'expérience sociale? C'est une petite aide, moi, que je trouve absolument formidable, que nous propose Jean-Paul Thibault. Avant de passer à la suite, qui est le détail de la Winter School, je vous propose un petit tour de présentation. C'est-à-dire que, alors, comme vous l'avez compris, il y a des M1, des M2 et des gens qui sont inscrits à la Winter School. Donc je ne vais pas demander aux M1 et aux M2 de se présenter un à un, parce que non pas qu'ils soient tous les mêmes, mais ils sont tous là pour la même raison. Par contre, je vous propose après de faire tourner le micro pour les autres, pour que vous nous disiez, les autres, peut-être, pour quelles raisons si vous avez une qualité particulière, que des gens font une thèse sur quelque chose, d'autres travaillent sur la radio, d'autres travaillent sur le son, d'autres sont juste curieux, nous dire aussi peut-être juste deux mots sur votre présence ici. Mais peut-être quand même, je propose que tous les M1 lèvent la main, les M1 des années urbains. Voilà. Donc merci d'être là. Et eux, ils viennent plutôt aider les M2 à terminer leurs travaux, mais pas que. Certains iront travailler avec vous aussi. Et puis les M2 des années urbains. Voilà. Alors les M2 des années urbains, ils n'ont pas le choix. Ils doivent terminer leur travail qu'ils font depuis le début. Ils sont moins libres que tout le monde. Et je propose que Sylvie me rejoigne pour nos terrains grenoblois. Donc, on a plutôt choisi des terrains proches, évidemment, pour que vous puissiez aller facilement soit à pied, pour quelques-uns, soit en transport en commun, en coup de bus ou de tramway.
Bonjour. Bonjour à tous. Donc, Sylvie Laroche, je suis architecte. J'ai passé quand même pas mal d'années ici au Cresson, où j'ai fait ma thèse et plusieurs post-docs et travaillé avec Nicolas et bien d'autres de l'équipe. Donc maintenant, je travaille à l'AERG. Alors, vous vous expliquez d'où vient aussi ces terrains pour comprendre un peu l'enjeu de ces propositions. L'AERG, c'est l'Agence d'urbanisme de la région grenobloise, où on a l'habitude de dire qu'on a un objectif d'observation du territoire. Donc, on regarde comment évolue à la fois le bâti, le social, l'environnement, vraiment comment évolue la métropole, mais aussi d'autres territoires bien plus éloignés. On va jusqu'à La Mure, jusqu'à Saint-Marcellin. On a l'habitude aussi de dire qu'on projette, c'est-à-dire quels sont les documents, comment on fait évoluer aussi le territoire. Alors, un des gros documents, c'est le PLUI. Je vous le dis juste maintenant parce qu'on va revenir dessus légèrement par la suite. On fait aussi projeter, aménager plus à travers des projets urbains. Et puis après, ce qui peut aussi vous intéresser, c'est qu'on anime. On anime à la fois des scènes entre différents acteurs, que ce soit des élus, des collectivités, des bureaux d'études, mais aussi avec les étudiants. Et puis, on a aussi ce côté aussi de partager. Partager à travers la revue Grand A, peut-être que tu parleras parce qu'il y aura des personnes qui viendront vous voir cette semaine par rapport à cette revue. Et puis c'est partager aussi les données, donc je vous invite à, si vous voulez regarder, il y a différents observatoires, il y a l'observatoire aussi des étudiants sur la métropole, il y a des observatoires sur le bien-vivre ici, sur la prise en compte de l'environnement. Voilà, donc tous ces éléments-là, on est 60 personnes à l'agence et on est une petite équipe de 6 personnes on a fait des propositions en interne. Et on a donc eu ces 6 premiers tracés que vous auront décrits vos collègues. D'ailleurs, les speeches donnent très envie de voir vos restitutions vendredi matin. Donc, c'est motivant de voir comment vous les avez présentés. Mais là, je vais vous en présenter donc 4 autres. On est donc une petite équipe à s'être focalisée sur ces 4 secteurs-là. Sachant que, voilà, je vous dis juste quand même qu'il y a la vue aérienne, comment on a organisé la présentation de chaque terrain. Mais en bas, c'est un extrait de PLUI. Alors bon, c'est vrai qu'un PLUI, c'est un plan local d'urbanisme, donc ça permet de savoir quelles sont la composition, l'évolution, quel permis de construire, entre guillemets, on peut faire sur la parcelle. Là, graphiquement, il est vraiment moche, notre PLUI, mais normalement, celui que vous voyez en ligne, il motive un peu plus. Pourquoi vous dire ça? C'est parce que ça nous permet de voir les différents tissus urbains du secteur qu'on vous a proposé. Et ça permet de voir aussi comment nous l'envisage, quelles sont les mutations que vous pouvez faire dessus. Est-ce qu'on envisage plus tard de faire du gros collectif? Au contraire, est-ce qu'on envisage, nous, de garder la petite maison pavillonnaire? Sachant que ça, c'est nos marottes au sein de l'agence. Vous êtes, je pense, pas obligé de les suivre, mais ça vous permet de voir un peu le fil conducteur de qu'est-ce qui nous a motivé pour vous présenter ces quatre terrains. Alors, un des premiers terrains, donc, qui n'est pas loin d'ici.
Là, c'est le parc de la Villeneuve.
C'est le bout du parc de Villeneuve. Vraiment,
si on voit,
on est là.
Vol d'oiseau, l'école d'architecture, elle est là. On passe sur cette carte, on va voir la photo aérienne. On est à 400 mètres à pied du démarrage.
Et donc, ce qui nous a paru intéressant dans ce tracé-là, c'était de passer du quartier d'immeubles Malherbe, où c'est vraiment il y a des bars là, assez implantés d'une manière assez isolée. Et puis tout de suite, on est entouré par des tissus de maisons pavillonnaires, pour terminer par l'habitat intermédiaire des résidences de ville. Donc l'habitat intermédiaire, en plus, c'est quelque chose assez rare sur la métropole. Donc c'était aussi questionné avec vous comment on habite, comment sonne cet habitat intermédiaire, sachant qu'habitat intermédiaire, c'est des maisons accolées, ça veut dire un accès commun, ça veut dire des jardins plus individualisés, mais aussi partagés. Donc là, tout le long de ce tracé-là, vous avez des formes urbaines vraiment très spécifiques, de l'immeuble en tissu à l'ensemble d'habitats intermédiaires qui donnent sur le parc de la Villeneuve à l'arrière.
Peut-être dire que vous n'êtes pas obligé de faire l'ensemble du transfert.
Voilà.
Vous pouvez choisir un lieu spécifique ou en comparaison deux lieux, par exemple.
Et puis nous, on a fait ce tracé qui suivait la rue. Mais si vous arrivez à passer dans les maisons ou dans les jardins, c'est encore mieux, je pense, pour vous, pour voir cette épaisseur du privé au public, de l'intime au collectif. Donc, mais c'était aussi pour simplifier, pour ne pas vous faire complètement peur. Et puis, dans les résidences 2000, c'est aussi ça qui est intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une imbrication de volume. Donc, ça permet aussi de questionner cet emboîtement, un peu comme à l'école d'architecture. Vous avez des questions sur ce premier terrain-là, où ça vous paraît clair? Vous voyez où il est? C'est bon pour ça?
On défile les terrains et puis après on ouvre aux questions.
Oui, mais c'est bien aussi peut-être... sachant que pour nous, il y a deux projets très phares là-dessus. C'est le renouvellement urbain des Villeneuve. Et puis à l'axe, grand axe Cours-Jean-Jaurès, il y aura un plan guide en cours, mais voilà, il y aura une chrono-vélo qui va s'installer ici. Je passe à un deuxième terrain, donc Saint-Martin-d'Hères, donc plus à l'est de la métropole. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Grenoble, c'est plus loin que le campus. On va dire que c'est en limite de la métropole, en direction de Chambéry. Et c'est ce qui nous intéressait, c'est justement cette question de limite, là. C'est cette lisière entre lisière urbaine, forêt et bout de la métropole, où c'est la plaine qui va taper sur le coteau de Belden. Et là, nous avons donc des logements collectifs, des maisons accolées encore, et des maisons accolées aussi dans la pente, ce qui fait qu'acoustiquement, bah, peut-être que Théo vous parlera de ça, de quel est l'enjeu de l'acoustique et des effets par rapport à quand on habite dans la pente, comment on ça fait haut-parleur ou pas, on va dire. Et puis après, on termine par un grand domaine, vous voyez tout à droite, et là, pour le coup, le PLUI, on voit bien cette gradation de tissu urbain, on passe vraiment de... des tissus plus collectifs, pavillonnaires, et d'un coup la lisière, la forêt, avec une maison qui est en plein milieu. Donc là, pour nous, c'était la question vraiment aussi de l'habitat intermédiaire, de se dire comment on habite ces coteaux, qui restent quand même toujours problématiques, comment un modèle ça s'implante dans la pente, comment c'est pris en compte, c'est ce qu'on va essayer de jouer avec ou pas, quel est le jeu entre... dans le lotissement ou à l'intérieur ou les espaces collectifs du lotissement et comment ils se l'approprient ou pas, sachant que là il y a une route assez passante, vous verrez, qui délimite bien de part et d'autre ce secteur. Donc là une autre ambiance, on va dire, alors lisière de métropole, si on pourrait l'appeler comme ceci. Le troisième, alors là on change complètement. C'est toujours sur Saint-Martin-d'Hères, mais c'est Gabriel Péri. Vous voyez, c'est pour la grande avenue qui va sur le campus ou sur IKEA. L'ensemble de boîtes assez massives de part et d'autre. Mais quand on s'écarte un peu de Gabriel Péri, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de tissus pavillonnaires plus au sud. Et puis, à la fois, il y a des poches. Comme là, il y a une poche d'une ferme qui restait un ancien corps de ferme qui situe... vraiment là-haut, et donc il y a cet entremêlement un peu de différentes fonctions, avec là pour le coup on peut parler quand même de nuisances sonores qui sont très fortes, que ça soit pour rapport à la zone d'activité économique, industrielle et commerciale, où il y a les livraisons, il y a le travail aussi, il me semble qu'il y a du BTP dedans aussi. Donc on est dans des ambiances assez fortes, et puis à la fois on a ces petites poches, ces maisons pavillonnaires avec des jardins, des fois qui sont plus ou moins animés, qui sont en plus ou moins entretenus, mais une juxtaposition de fonctions qui sont assez intéressantes, je pense, de questionner d'un point de vue acoustique. Et puis, alors là, ça peut peut-être faire travailler l'imaginaire, comme le dernier groupe qui présentait sur Marianette. Mais sachez que normalement, on a un projet où la transformation de Gabriel Péri avec en boulevard urbain, avec l'idée de construire 2000 logements là-bas. Donc c'est l'ambition quand même de transformation qui est assez forte. Là, ça reste juste encore des axes, hein, d'études. Mais ça peut peut-être aussi nourrir votre imaginaire sur ce, quand vous allez vous rendre sur le terrain. Avec ce qu'on peut faire, se dire, on va habiter, il y aura 2000 fois 4, on va dire 8000 personnes qui peuvent habiter là-bas. Ensuite, donc là, c'est vers l'abbaye. C'est plus, on va dire, le... Comment le situer, l'abbaye ?
Le nord de la Villeneuve.
Non, nord de la Villeneuve et donc derrière le parc Paul Mistral. Entre, voilà, j'ai essayé de trouver les deux.
Pour y aller, c'est le C5.
Voilà, je connais bien. Là, ce qui nous a intéressé, c'est que c'est une transformation complètement d'un quartier avec à la base donc, les HVM de l'abbaye. Et puis tout autour, il y a une transformation du quartier, de ce tissu de faubourg avec encore des maisons individuelles. Donc là, c'est très intéressant de regarder aussi les espaces privés externes, de comment ils sont animés, utilisés. Et puis, à la fois, il y a des opérations d'habitat intermédiaire qui se situent plus à côté de l'abbaye, où là, il y a aussi des îlots qui, plus récents qui jouent aussi sur cette notion d'extérieur-intérieur. Puis ce qui nous a paru aussi intéressant, c'est qu'actuellement, c'est le seul lieu où il y a une occupation temporaire de cet HBM. Donc c'est aussi venir questionner quelle est la densité, densité intermédiaire, la densité éphémère, on va dire. Ça peut être aussi une piste qui peut nous paraissait peut-être intéressante par rapport à cette ZAC. Et puis, voilà aussi, comme je vous disais, cette diversité d'espaces externes. Le jardin, le patio, la terrasse, la petite cour, la place. Voilà, on est vraiment vers une gradation d'espace et d'utilisation. Et pour terminer, donc, alors...
4+1.
Comment ?
4+1.
Oui. Et on l'a gardé parce que c'est un peu un historique à la fois au Cresson et puis aussi un peu dans les études au sein de l'agence. C'est plus le centre, donc vers les trois tours, là au moins c'est simple, de démarrage. Vers les trois tours, pour à la fois questionner la grande hauteur, donc 28 étages, construite dans les années 68, et passer vers l'immeuble en S, où là on est dans une autre forme urbaine, c'est-à-dire des appartements traversants, plus étroits, mais qui donnent sur des parcs de part et d'autre et des équipements publics, pour aller enfin vers un tissu ancien plus classique de faubourg, donc un tissu ancien du centre-ville de 4-5 étages. Et on l'avait laissé aussi parce qu'il y avait pas mal d'études du Cresson sur les premiers fragments sonores enregistrés là-bas. C'est un secteur où il y a eu aussi Winter School sur ce site. Donc peut-être que voilà, il y a aussi pas mal d'enregistrements. Vous pouvez peut-être vous appuyer dessus. Puis nous, ça nous intéresse toujours d'avoir cette limite de Grenoble où il y aura un projet au niveau de l'administration. Qui va se transformer, puis de manière plus large sur la question des berges de l'Isère, parce qu'on est juste à côté des berges. Voilà, en gros, les secteurs. J'espère que ça vous fera des terrains de jeu, entre guillemets, stimulants, et que ça ne sera pas, au contraire, piégeant. Voilà.
Bah, merci. Donc, les terrains, ils sont à la fois... l'équipe de la URG a un vrai intérêt à ce que vous allez dire dessus, mais en tout cas, sont prétexte. À expérimenter des questions, des regards, des expériences que vous auriez envie de faire dans le chemin.
Bon, bah c'est super. et vendredi, c'est festif en fait, c'est l'idée quand même, c'est vraiment, on a le plaisir de se partager ce qu'on a produit, même si c'est pas fini, même si c'est des idées, etc. Eh bien, on se retrouve à.
On se retrouve à 14h ici. Bon appétit.